persuader cet homme cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léo Bardot à Rome.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiantes et les étudiants de l'université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et donc on a pensé qu'il serait intéressant de décrypter ces enjeux et les objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, les étudiantes Julia Scalas, Meriem Fayala, Linda Ayeb et Inès Aboulkassam vont vous parler des questions du Mercosur en lien avec le Green Deal.
Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'entendre un extrait du discours d'Ursula von der Leyen présentant la stratégie du Green Deal devant le Parlement européen en 2019.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le Green Deal ?
Le Green Deal, c'est une politique qui est développée depuis 2019 par la Commission européenne, dirigée par Madame Ursula von der Leyen. Ses principaux objectifs sont les suivants. Arriver à une neutralité climatique d'ici 2050 et construire une agriculture plus durable pour aboutir à une économie circulaire. Il s'agit également de repenser l'industrie vers une industrie propre afin d'obtenir un environnement plus sain. La Commission a donc pour rôle de soumettre différentes propositions aux législateurs européens, à savoir le Conseil et le Parlement, pour qu'elles prennent la forme de règlements ou directives et soient adaptées ou appliquées, in fine, sur le territoire des États membres. Le pacte vert est également l'occasion de traduire les engagements climatiques internationaux de l'Union européenne. En effet, les États membres sont signataires de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, entrée en vigueur en 1994, qui affichait déjà un objectif de stabilisation des gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Par ailleurs, l'organisation internationale est partie à l'accord de Paris, en vigueur depuis 2016, qui ambitionne de limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés. Mais récemment, alors que la priorité semblait être la transition écologique, l'accord de libre-échange UE-Mercosur fait beaucoup parler de lui.
Mais pourquoi en entend-on autant parler ?
Eh bien, cet accord, négocié depuis 1999 entre les pays du Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et l'UE, prévoit l'importation et l'exportation d'une quantité non négligeable de biens et de marchandises entre ces deux entités. À titre d'exemple, le traité prévoit d'éliminer plus de 90% des droits de douane imposés par le Mercosur et l'UE à certains produits. Ainsi, 99 000 tonnes de bœuf par an devraient être importées, 60 000 tonnes de riz ou encore 45 000 tonnes de miel. Les droits de douane du Mercosur seraient progressivement éliminés sur les voitures, les machines, la chimie, les vêtements, le vin, les fruits frais ou encore le chocolat venu d'Europe. Le Brésil s'est également engagé à ne pas imposer de droits de douane sur les matières premières critiques à destination de l'UE comme le nickel, le cuivre, l'aluminium, l'acier ou le titane. Au regard de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les accords de libre-échange doivent obtenir un vote à la majorité de la part du Conseil et un vote d'approbation de la part du Parlement européen. Une première version a été signée en 2019 par la Commission et présentée devant le Parlement, mais cette dernière a été rejetée par l'organe démocratique européenne.
Pourquoi ce rejet, Inès ?
En 2019, il est notamment dû au manque de protection et de garanties environnementales et sociales que présentait l'accord. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, qui ne cachait pas sa volonté de déforester, la modification du texte avait peu de chances d'arriver. Mais avec l'arrivée de Lula da Silva, les partis ont repris les négociations courant 2022. In fine, le 6 décembre 2024, Madame Ursula von der Leyen signait le traité, actant la fin de sa renégociation pour pouvoir le présenter au Conseil.
Ce texte a-t-il réussi finalement ? Est-ce que les inquiétudes se dissipent ?
Malheureusement, non. Du point de vue du Green Deal, le Mercosur pose des questions sur l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qu'engendrerait inévitablement l'accord. Par ailleurs, les réticences se font toujours ressentir, notamment du côté des agriculteurs, mais Myriam nous en parlera plus tard. Le mécontentement de la finalité du texte de l'accord se fait entendre par une grande partie de la société civile. Et certains pays ont montré leur opposition ferme, comme la France, les Pays-Bas, l'Italie ou encore la Pologne. L'absence de clause miroir en 2019 comme en 2024 pose un véritable problème. Alors qu'il semblerait que l'accord ne respecte pas les normes environnementales que les organes de l'Union émettent à travers la politique du Green Deal, pourquoi ce dernier est-il conclu ? Peut-on dire qu'il constitue un pas en arrière au regard du pacte vert européen ? Comment expliquer ce choix de la part de la Commission qui avait pourtant l'air d'impulser une véritable transition écologique ? C'est ce que nous analyserons aujourd'hui avec Inès Aboulkassam, Meriem Fayala, Linda Ayeb et moi-même, Julia Scalas. Ainsi, première question, Linda, est-ce que le commerce international et le droit de l'environnement sont deux enjeux totalement incompatibles ?
En effet, c'est normal qu'on puisse se poser cette question. L'accord UE-Mercosur, conclu en 2019, s'inscrit dans un contexte de tension entre ambition commerciale et exigence environnementale. Dans le cadre du Green Deal européen, cet accord soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec les objectifs écologiques de l'Union européenne. Pourtant, plusieurs arguments sont avancés pour défendre sa pertinence sous l'angle du développement durable.
Oui, Linda, tu nous parlais d'enjeux incompatibles. Mais est-ce que, d'une certaine façon, on pourrait envisager cet accord comme un levier pour la diplomatie verte et la promotion des normes européennes ?
Alors, l'accord oblige les pays du Mercosur à respecter l'accord de Paris et à lutter contre la déforestation illégale, tout en imposant des standards environnementaux et sociaux plus élevés qui influencent directement les pratiques agricoles et industrielles de la région. La mise en place de normes de traçabilité et de certification favoriserait des pratiques agricoles plus responsables, tandis que les États signataires seraient incités à renforcer leur politique de protection de l'environnement et à mieux encadrer l'exploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, cet accord représente une alternative au modèle extractiviste et mercantiliste, ainsi qu'à la dépendance croissante du Mercosur vis-à-vis de la Chine. En se positionnant comme un partenaire exigeant, mais engagé de la transition verte, l'Union européenne offre une perspective de diversification économique fondée sur des principes de durabilité. De plus, l'accord poserait les bases d'un commerce plus équitable et responsable en intégrant des engagements sur les droits des travailleurs et les standards environnementaux, évitant ainsi une course au moins-disant écologique et social.
Mais quels intérêts pourrait représenter le commerce international ?
Eh bien, le commerce international est un moteur essentiel de la croissance économique et de l'innovation. En favorisant l'intégration économique entre l'UE et les pays du Mercosur, l'accord encourage l'échange de technologies vertes et le renforcement des réglementations environnementales dans les pays partenaires. Contrairement à l'idée selon laquelle le libre-échange favorise la dérégulation, il peut au contraire exporter des standards plus élevés en matière de développement durable.
Mais Inès, sans commerce international, quels seraient les risques ?
Alors, le rejet des accords de libre-échange en faveur d'un repli protectionniste n'est pas sans conséquence. Une politique commerciale fondée sur la fermeture des marchés pourrait entraîner des tensions économiques, une hausse des prix et une baisse de la compétitivité des entreprises européennes. De plus, le protectionnisme alimente la montée des mouvements populistes, notamment d'extrême droite, qui exploitent la peur de la mondialisation pour promouvoir des politiques isolationnistes. L'accord UE-Mercosur permettrait de maintenir un équilibre entre ouverture économique et coopération sur les défis environnementaux.
Mais du coup, on se pose la question, si l'accord UE-Mercosur permettrait-il un financement pour le Green Deal ?
En stimulant les échanges commerciaux, l'accord UE-Mercosur devrait favoriser la croissance du PIB européen, générant ainsi des recettes fiscales qui pourraient être réinvesties dans des projets verts. Mais l'accord UE-Mercosur, ce n'est pas que des points positifs. Beaucoup de contradictions sont à constater et c'est d'ailleurs pour cela que cet accord a beaucoup été contesté.
En effet, il y a de véritables contradictions entre le Green Deal et l'accord de libre-échange.
Exactement, Meriem. Aujourd'hui, toutes les 3 minutes, l'équivalent d'un terrain de football de forêt tropicale disparaît à cause des importations européennes de produits agricoles en provenance du Mercosur. Et l'un des principaux responsables, c'est la viande bovine. Pour répondre à la demande croissante de l'UE, des forêts sont rasées pour agrandir les élevages. D'après une étude commandée par le gouvernement français, la ratification de cet accord pourrait même entraîner une hausse de 25% de la déforestation dans la région.
Tu veux dire que l'Europe contribue directement à la déforestation ?
Oui, d'une certaine façon. Par exemple, le soja est aussi un moteur clé de cette destruction, puisqu'il est utilisé pour nourrir le bétail européen. En Argentine, dans la province de Córdoba, 95% de la forêt indigène a disparu en seulement 20 ans. Et avec l'accord, les taxes à l'exportation du soja en Argentine et au Paraguay seront réduites, ce qui risque d'accélérer encore plus cette tendance. À côté de ça, aucun mécanisme de traçabilité fiable n'est prévu pour garantir que ce soja ne provienne pas de zones récemment déboisées. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la culture de la canne à sucre, notamment pour produire du bioéthanol. Son développement, encouragé par l'accord du Mercosur, risque lui aussi d'intensifier la déforestation. En résumé, cet accord va dans le mauvais sens. Plus d'exportations, plus de terres exploitées et donc plus de forêts détruites. C'est un cercle vicieux qui contredit complètement les engagements de l'Union européenne en matière de climat et de biodiversité.
Et concrètement, quelles sont les autres conséquences de cet accord ?
Alors, l'accord favorise également une agriculture intensive et ultra compétitive, souvent bien moins réglementée qu'en Europe. Par exemple, au Brésil et en Argentine, des pesticides comme l'atrazine ou le paraquat, qui sont interdits dans l'Union européenne, sont encore largement utilisés. Ces produits toxiques permettent de réduire les coûts et d'augmenter les rendements, ce qui donne un avantage aux producteurs sud-américains. Un autre problème, les OGM. Alors que l'Europe applique des règles strictes sur leurs usages, ils sont massivement cultivés au Mercosur. Tout ça va totalement à l'encontre du Green Deal européen et plus particulièrement de la stratégie de la ferme à l'assiette qui vise à réduire l'usage des pesticides, améliorer le bien-être animal et encourager une alimentation plus durable. Résultat, cet accord pourrait inonder le marché européen de produits qui ne respectent pas ces standards, ce qui compromettrait les efforts de transition agro-écologique.
Exactement, Julia. Et c'est pas tout. Il y a un vrai problème de concurrence déloyale. Les agriculteurs européens, qui doivent respecter des règles strictes, se retrouvent face à des importations bien moins encadrées, ce qui provoque une réelle colère de la part des agriculteurs, point qu'on approfondira plus tard.
Et du côté des engagements écologiques, y a-t-il de réelles garanties ?
Bah en fait, pas vraiment. Il y a une absence de sanctions contraignantes en cas de non-respect des engagements écologiques, contrairement aux différents commerciaux qui sont encadrés par un mécanisme juridique plus solide. Les questions environnementales sont juste soumises à des recommandations d'experts qui ne sont même pas contraignantes. En clair, si un pays du Mercosur ne respecte pas ses engagements sur la déforestation, l'UE ne pourra rien faire. Certes, l'accord de Paris a été intégré à l'accord suite à sa renégociation, ce qui pourrait sembler être une avancée positive, mais en réalité, cela ne change rien. Si un État ne respecte pas ses engagements climatiques, aucune sanction n'est prévue.
Pire encore, l'accord inclut un mécanisme de rééquilibrage qui permet à un pays de demander une compensation si une nouvelle réglementation nuit à ses intérêts économiques. En théorie, ça pourrait être utilisé par les pays du Mercosur pour contester certaines mesures du Green Deal, comme la taxe carbone aux frontières ou les restrictions sur les importations issues de la déforestation. Donc, non seulement cet accord ne garantit pas que les engagements environnementaux seront respectés, mais il risque aussi de fragiliser les ambitions écologiques de l'UE en permettant des contestations juridiques. En bref, on a d'un côté une Europe qui affiche une volonté forte de transition écologique et de l'autre, un accord qui va totalement à l'encontre de ses objectifs en favorisant les intérêts commerciaux. Une vraie incohérence.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Je tourne en rond, je tourne.
venez d'écouter « Je suis un homme » de Zazie. Nous venons de parler des points positifs et négatifs de l'accord avec le Mercosur. Et puisque la France est le premier pays européen en matière d'agriculture, nous regarderons plus en profondeur de quelle façon le Mercosur a eu et a un impact sur le territoire.
En réalité, la France est opposée à l'accord UE-Mercosur. Et cette opposition ne date pas d'hier. En 2019, comme nous avons pu le constater, l'Union européenne et le Mercosur ont signé un accord de libre-échange, mais celui-ci a été bloqué, notamment par la France, en raison de l'absence de clauses miroirs et du risque de concurrence déloyale pour les agriculteurs européens. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a refusé de ratifier l'accord, s'appuyant sur un rapport d'experts confirmant ses risques environnementaux et économiques. La mobilisation des agriculteurs français a été essentielle. Manifestations, blocages et pressions sur le gouvernement ont renforcé l'opposition du texte. D'autres pays comme l'Autriche, l'Irlande et les Pays-Bas ont également rejoint la contestation. Face à ce blocage, l'Union européenne a été obligée d'entamer des renégociations pour intégrer des engagements environnementaux plus stricts, ce qui nous amène à aujourd'hui. Toutefois, ces modifications restent insuffisantes aux yeux des opposants et le débat continue.
Comme l'a montré Julia, la France s'est montrée intransigeante en 2019. Mélinda, est-ce que tu penses que la France est plus hésitante sur son opposition ?
Sans surprise, la réponse est non. Plusieurs organisations agricoles, comme la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, accompagnée de plusieurs agriculteurs, s'opposent fermement à l'accord du Mercosur. Côté français, cette opposition est unanime. Le 1er novembre 2024, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, s'aligne sur l'opposition d'Emmanuel Macron, en déclarant que la France dit non et qu'elle n'est pas seule dans son refus.
Mais qu'est-ce que reprochent les agriculteurs ? Une concurrence déloyale ?
La réponse est claire. Depuis plusieurs années, les agriculteurs ressentent un réel sentiment de délaissement. Entre le mécontentement dû à la PAC jugée trop fragile et celui provoqué par la nouvelle politique du Green Deal jugée trop ambitieuse, l'accord UE-Mercosur vient s'ajouter à leur colère, mais surtout à leur peur. L'inquiétude sur le sujet du Mercosur n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs années, les agriculteurs dénoncent la menace que représenterait l'arrivée massive de produits agricoles sud-américains aux portes des frontières européennes. Comme on a pu le comprendre, l'accord prévoit notamment la suppression des droits de douane sur l'importation de tonnes de produits sud-américains. Mais le point qui alerte les agriculteurs, c'est le quota de viande bovine et de volaille exemptés de droits de douane. Une concurrence déloyale dénoncée unanimement par les éleveurs. Tous estiment qu'il est difficile, voire impossible, de surmonter cette future compétitivité face aux grandes exploitations des pays du Mercosur.
Outre la concurrence, que l'on peut critiquer subjectivement, ce n'est pas seulement la quantité qui pose problème, mais la non-réciprocité dans le respect des normes sanitaires et environnementales. Et oui, en ces temps d'inflation, lorsque des produits se retrouvent sur le marché, souvent moins chers en raison de normes environnementales et sanitaires moins strictes, cela incite les consommateurs à privilégier le prix au détriment de la qualité et du respect des standards européens.
Inès, en parlant de normes environnementales, quel est le problème ?
Alors Myriam, il faut garder à l'esprit que les agriculteurs européens sont soumis à des normes environnementales strictes, notamment sur l'usage des pesticides, le bien-être animal et les pratiques agricoles durables, tandis que les producteurs sud-américains ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. L'absence de clause miroir dans l'accord UE-Mercosur crée une concurrence déloyale, mettant en péril la compétitivité des exploitations européennes. Cette situation compromet également les efforts de l'UE en matière de transition écologique. Pour rappel, les clauses miroirs sont des règles imposant aux produits importés de respecter les mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales que ceux produits en Europe.
La politique du Green Deal est-elle trop ambitieuse pour les agriculteurs ?
Comme nous avons pu le dire, le Green Deal prévoit différentes mesures concernant l'agriculture, comme la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques, ou encore une réaffectation des terres pour la biodiversité. Toutes ces initiatives mises en place par le Green Deal ont suscité des réactions relativement contrastées, notamment parmi les agriculteurs européens.
En effet, certains estiment qu'au regard du respect des normes environnementales imposées par le Green Deal, qui sont foncièrement plus strictes que celles auxquelles les agriculteurs sud-américains sont soumis, la mise en œuvre de ces nouvelles règles nécessite davantage de démarches administratives. Il faut comprendre que cela entraîne une augmentation de la charge de travail des agriculteurs, ainsi qu'un coût financier plus important. Certains estiment que les aides financières prévues pour faciliter la transition vers des pratiques plus durables sont réellement insuffisantes.
C'est là qu'on peut se demander d'ailleurs s'il n'aurait pas été plus judicieux d'assouplir ces normes environnementales imposées aux agriculteurs avant de signer l'accord UE-Mercosur, qui ne garantit pas de clause miroir. À ce sujet, sous la présidence d'Ursula von der Leyen, face à ses préoccupations, un éventuel assouplissement des normes environnementales avait été envisagé, notamment par la prolongation de l'utilisation de certains pesticides, comme le glyphosate, pour une durée de 10 ans. L'objectif aujourd'hui est en réalité de concilier les impératifs environnementaux avec les réalités économiques du secteur agricole.
Alors même que la France est opposée à cet accord, comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à imposer sa position ?
Et bien en fait, différents politiques, comme Manon Aubry, députée européenne du groupe The Left, avaient vivement critiqué le gouvernement français pour avoir cessé d'opposer son veto à l'accord UE-Mercosur. Selon elle, la France n'a pas fait le travail nécessaire pour défendre ses intérêts. Depuis 7 ans, l'influence de la France au sein des institutions européennes s'est en réalité réduite à néant. Certains parlent d'une trahison d'Ursula von der Leyen. En effet, pendant que le président Emmanuel Macron se concentrait sur sa politique interne, Ursula von der Leyen aurait profité de la fragilité de la France pour signer l'accord Mercosur.
Alors, est-ce que vous pensez que la France a encore aujourd'hui une chance de se faire entendre ?
Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. Il faut comprendre que l'accord doit encore être voté par les 27 représentants de l'UE ainsi que par le Parlement européen. Et la France peut jouer un rôle crucial dans son opposition. En effet, cet accord devant être voté par les États membres, la France pourrait utiliser la minorité de blocage. Si 4 États membres représentant au moins 35% de la population européenne votent non, alors le texte ne passera pas. Il appartient donc à la France de jouer cette carte et de trouver des alliés pour contrer ce texte. Pour certains, le rapport de force avec la Commission européenne est primordial pour empêcher l'accord Mercosur-UE d'aller jusqu'au bout.
Pour conclure, l'accord UE-Mercosur est un accord qui fait des accords. Si certains pensent qu'il est en effet bénéfique pour l'économie de l'Union européenne et du Mercosur, c'est un recul face à l'ambition de transition écologique que porte le Green Deal. Mais au regard de la position diplomatique actuelle de l'Union européenne sur la scène internationale, face à l'Amérique de Trump et la Russie de Vladimir Poutine, n'est-elle pas obligée d'abandonner certaines valeurs pour se faire de nouveaux alliés ?
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Julia Scalas, Meriem Fayala, Linda Ayeb et Inès Aboulkassam du Master Droit Européen de l'Université Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio, celui des surligneurs et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos actualités.